franceinter.fr.
Et une histoire étonnante aujourd'hui à la une de la science, celle d'un couple américain dont l'enfant s'est avéré être génétiquement différent du père. Cette histoire a été racontée il y a quelques jours sur le blog Passeur de Science. Il a mis en échec tous les tests de paternité, mais a rapidement été élucidé par les généticiens. Et Frédéric Flamand, vous êtes là pour nous éclairer. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous êtes biologiste à l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter quand même un petit peu cette histoire surprenante, en tout cas nous la remettre dans son contexte, histoire qui a été présentée ce mois-ci au Symposium international sur l'identification humaine. Et c'est un cas quand même assez rare, je crois, qui a été dévoilé.
Ah, c'est même un cas unique, hein. C'est quelque chose de très étonnant. C'est un couple d'Américains qui étaient de groupe sanguin A et qui ont eu un enfant de groupe sanguin AB.
Ouais.
Donc dans ces cas-là, ce qu'on soupçonne en général, c'est que le père n'est pas vraiment le père.
Il y a le fricotage de la maman avec...
Ça, c'est le cas le plus classique, disons.
Ouais.
Il y a des tests qui ont été faits, des tests ADN, et qui confirmaient que le père n'était pas le père. Mais ça paraissait complètement exclu, parce que l'enfant était né d'une fécondation in vitro.
Ouais.
Et puis, finalement, il y a des études approfondies qui ont été faites, et qui ont montré qu'il y avait un lien de parenté très fort entre le père supposé...
Ah, bien là, nous avons notre téléphone qui a coupé. Alors, j'espère qu'on va pouvoir retrouver notre invité assez rapidement, Frédéric Flamand, qui commençait à nous dévoiler donc cette histoire assez curieuse et passionnante. Vous en aviez entendu parler, vous, Marilène Patoumatis, ou pas du tout?
Ah non, pas du tout. Là, c'est vraiment complexe. Hein.
Voilà, c'est un cas extrêmement oui. rare de biologie. Donc, on va essayer de rappeler Frédéric Flamand dans un instant, si on arrive à le joindre à Lyon, où il se trouve. Et on va faire la revue de presse tout de suite, et puis on le reprendra juste après, si on arrive, j'espère, à le joindre. Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, une autre histoire de développement, quand on aura la conclusion de la première, développement étrange avec des policiers argentins qui ont fait une découverte étonnante aussi, un lézard à six queues. Rien à voir cependant avec une nouvelle espèce, ce malheureux reptile aurait subi plusieurs blessures sur toute la longueur de son appendice. Son système de régénération se sera alors activé, le dotant de nouvelles queues à l'emplacement des plaies. Difficile de savoir quel bénéfice ce spécimen pourra en tirer, mais il est probable que sa nouvelle morphologie le désavantage dans ses déplacements, on pourrait s'en douter. Une nouvelle étude publiée hier dans la revue Sleep explique que durant les épisodes de somnambulisme, les personnes concernées ne ressentent pas la douleur et peuvent rester endormies malgré les blessures qu'elles s'infligent. Les scientifiques qui ont fait cette étude pensent qu'un état modifié de l'éveil affecte certains comportements, la conscience, encore la perception de la douleur. Une découverte qui permettra probablement d'en savoir plus sur les troubles du sommeil. Et puis la NASA a publié le 1er novembre dernier des images grandioses du Soleil dans une vidéo en très haute définition. Ces images captées par la sonde Solar Dynamics Observatory montrent notre étoile sous tous les angles et permettent d'observer les éruptions solaires qui se déroulent à sa surface. La vidéo qui a nécessité 300 heures de travail est à découvrir sur le site de la Tête au Carré et sur notre page Facebook. Frédéric Flamand, on vous a retrouvé.
Oui, bon, voilà.
Voilà, avec votre téléphone qui nous fait quelques blagues. Alors, on poursuit donc l'histoire. Comment est-ce qu'on a pu avoir des explications donc sur ce phénomène?
Donc, la clé de l'énigme, finalement, c'est que les cellules germinales de cette personne-là, celles qu'elle a transmises à ses enfants, ne sont pas les mêmes que les autres cellules de son organisme. En fait, c'est une personne qui est une chimère, c'est-à-dire un assemblage entre des cellules qui ont des génomes différents. Et l'explication probable, c'est qu'au tout début du développement, il y avait des jumeaux et deux jumeaux qui ont fusionné en une seule personne. C'est comme si c'était des frères siamois, mais sur un seul organisme, disons.
Pourtant, ce père n'avait pas de jumeaux, hein, c'est ça?
Non, il est né seul. Donc, on pense que c'est une grossesse multiple au départ, mais qu'un des deux jumeaux s'est développé et qu'il y a dans l'un des deux jumeaux quelques cellules qui sont venues de l'autre jumeau.
Donc, ce papa aurait absorbé certaines des cellules de son jumeau, hein, qui donc, lui, a disparu avant largement le développement et la naissance. Et donc, ce père est porteur de deux génomes, c'est ça?
C'est ça. Les cellules de son jumeau qui sont transmises par la lignée germinale et ces cellules à lui qu'on peut identifier dans le sang ou dans la salive, par exemple.
Donc, vous appelez ça un chimérisme, effectivement,
oui.
Avec ce cas vraiment très troublant d'un homme qui porte deux codes génétiques en lui, c'est ça?
C'est ça, oui. Alors, disons que c'est un cas tout à fait exceptionnel parce que la situation a permis de l'identifier, mais savoir si ces chimérismes sont si rares que ça, ça c'est une question qui est ouverte en fait.
Oui.
On n'est pas, c'est très très difficile à détecter en général.
Oui. Et justement, dans les cas de tests de paternité, il y a un certain nombre de, enfin, un pourcentage très important qui indique que le père n'est pas le père, justement. Je crois que c'est 25%, mais on ne sait pas encore à combien de pourcentages sont attribués ces cas de chimérisme, c'est ça?
Ah bah, pour l'instant, on imagine que c'est exceptionnel, mais au fur et à mesure qu'on va faire de plus en plus de tests, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui. Mmh. Bon, il y a des méthodes donc nouvelles maintenant qui permettent d'identifier la parenté de façon beaucoup plus stricte et qui donc permettent de trancher.
Comment est-ce qu'on pourrait s'apercevoir justement que cette personne possède un second code génétique? Il faut analyser tout l'organisme pour le savoir?
Disons, dans l'idéal, oui. En pratique, on peut facilement identifier l'ADN dans le sang, dans la salive, la peau. Bon, on ne va pas chercher plus loin que ça, dans les cheveux également.
Oui.
Mais disons qu'on peut difficilement exclure toujours la présence de cellules étrangères dans un tissu plus à l'intérieur de l'organisme. Disons.
Ouais. Et comment justement, Frédéric Flamand, on explique que ces cellules étrangères n'aient pas été éliminées par l'organisme?
Alors, dans ces cas-là, le cas où il y a une fusion entre deux jumeaux, l'organisme se développe avant que son système immunitaire soit mis en place. Et donc, quand le système immunitaire apparaît, il y a une éducation du système immunitaire qui apprend à reconnaître les cellules de l'organisme, les cellules étrangères. Donc, elle reconnaît à ce moment-là les cellules du jumeau comme étant des cellules qui font partie de l'organisme. Et il n'y a pas de réaction, pas de rejet de ces cellules.
Ouais, la proportion de ces cellules étrangères, elles sont importantes dans l'organisme, justement?
Alors,
est-ce qu'elles se localisent dans certaines parties du corps ou pas?
Alors c'est d'après ce qu'on sait chez les animaux, on peut faire des chimères d'un point de vue expérimental, c'est tout à fait déterminé par le hasard. Donc on peut trouver des cellules à peu près n'importe quel tissu et en proportion qui est très variable. Expérimentalement, chez la souris, on fait facilement des chimères qui ont jusqu'à 50% de chimérisme. Donc 50% de cellules d'une personne, d'un individu, 50% d'un autre.
Ouais. Est-ce que du coup on peut considérer que les tests de paternité sont fiables ou pas alors? Ça remet en question ces procédés.
C'est un des écueils, c'est peut-être pas le plus problématique, il y a aussi les contaminations de laboratoire, des choses comme ça.
Mm-hmm.
En tout cas, ce qui est important de dire, c'est qu'en France, ils sont réservés au domaine médical, mais aux États-Unis, comme ici, là, ils sont faits par des sociétés privées. Donc effectivement, laisser ces tests-là à des gens qui ne sont pas des médecins, c'est éventuellement se priver de ce type d'explications qui peuvent effectivement avoir des conséquences importantes. Oui.
Est-ce que ça peut causer des problèmes particuliers pour un organisme vivant, justement, de posséder deux codes génétiques comme ça? Et pour cet enfant qui est né, là, est-ce que ça peut poser un problème?
En général, non. En principe, non. Mais il y a comme le cas où si les deux jumeaux qui fusionnent, l'un est de sexe mâle, l'autre est de sexe femelle, à ce moment-là, on aura des problèmes de développement des gonades. Selon le degré de chimérisme, ça peut poser des problèmes, des problèmes de reproduction, oui.
Ah oui, il y a aussi ce cas de figure, effectivement, d'un chimérisme mâle-femelle.
Oui, alors à ce moment-là, on peut se retrouver des situations très particulières. Par exemple, un ovocyte qui a un chromosome Y, ce qui n'arrive jamais, normalement. Et ça, ça effectivement pose des problèmes de fertilité.
Vous l'analysez comme une simple anomalie génétique, au fond, ce cas très rare que vous venez de nous décrire?
Alors c'est plutôt une anomalie cellulaire, mais il y a aussi des anomalies génétiques de ce type-là. C'est-à-dire qu'on sait que globalement, d'une façon générale, c'est une simplification de penser qu'on a le même génome dans toutes nos cellules. C'est-à-dire qu'il y a des cellules dans l'organisme qui peuvent avoir des mutations que les autres n'ont pas. Dans ce cas-là, c'est carrément le génome entier qui est différent, mais finalement, sur le fond, ça veut dire que toutes nos cellules ne sont pas identiques.
Voilà, donc ce père qui est à la fois père et oncle de son enfant, oncle fantôme, hein, si on peut l'exprimer ainsi, et donc ce cas qui a été révélé il y a quelques jours et qui maintenant circule un petit peu partout, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup surpris, et vos explications étaient très claires, Frédéric Flamand. Merci beaucoup d'être passé à la Une de la Science aujourd'hui.